Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission où va souffler un grand vent de liberté, de nature, de puissance, de vie et de mort, avec un roman tellurique et mystique qui nous plonge dans un monde à la fois familier et étrange, doux et cruel, une atmosphère presque fantastique, incarnée par une langue au plus proche des sensations, à l'image du titre pour commencer, Blanc Résine. Bonjour Audrey Wilhelmy.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de cette fiction parue en France aux éditions Grasset, après sa première publication au Québec, comme tous vos livres, dont Les Sangs, ou encore Le corps des bêtes, et on entend déjà la continuité de votre écriture dans ces intitulés très organiques. Un nouveau roman donc tout juste récompensé au Festival Étonnant Voyageur par le prix Ouest France, et où vous explorez notre appartenance à la Terre, à l'humanité, à travers deux personnages, une femme et un homme, que l'on voit naître, elle dans un couvent, lui dans une mine de charbon, et dont l'histoire d'amour va mettre à jour tout ce qui nous oppose et tout ce qui nous lie. De quelle énergie est né ce roman, Audrey Wilhelmy?
Il naissait de deux élans différents. D'abord, la réflexion qui lie la féminité et la nature, donc qui était un enjeu très important, puis que j'avais mis en place dans Le corps des bêtes, mais que je voulais vraiment creuser avec Blanc Résine. Ensuite, je voulais réfléchir aux différentes manières de vivre la marginalité. Les deux personnages, Laure, qui est un homme albinos quand même et qui grandit dans cette mine de charbon où il est particulièrement voyant, et Daa, qui vit une vie marginale dès le départ puisqu'elle est élevée par 24 femmes, 24 mères qui l'élèvent de manière très libre et qui donc a une certaine difficulté à se plier aux règles. Je voulais finalement explorer comment ces deux personnes marginales vivaient de façon très différente leur rapport au social. Le personnage de Laure rêve de se fondre au monde social, alors que Daa n'a aucune intention et aucune ambition d'en faire partie. Donc, c'était un peu cette opposition-là aussi qui a guidé l'écriture du roman.
Avec deux voix, donc, celles de vos personnages qui s'entrecroisent, avec des lieux jamais nommés. On est dans une espèce de forêt, dans une mine, un peu la ville, le temps, quelle époque, hier, sans doute un peu aujourd'hui. Tout ça est dans cette espèce d'atmosphère un peu irréelle, avec en effet cette femme libre, entièrement tournée vers la flore, vers la faune, où elle a grandi après avoir quitté ce qu'elle appelle ses 24 mères, et qui s'est choisi son propre nom. Daa. Qu'est-ce qu'elle incarne exactement? Est-ce que c'est cette puissance, ce don qu'ont certaines personnes d'être fusionnelles avec la nature et toutes les espèces, qu'elles soient végétales, animales, minérales?
J'ai l'impression qu'elle incarne moins une forme de fusion qu'une forme de totalité. C'est pas un personnage qui se fond. Elle va finir par se fondre avec la nature, mais pas parce qu'elle s'y évanouit, qu'elle s'y dissout, mais parce qu'au contraire, elle la porte entière. Donc, à mon sens, c'est quand même différent, puisque la nature n'est pas quelque chose qui finit par englober et écraser le personnage, mais au contraire, qui la propulse. Donc, elle le porte, mais la nature ne l'absorbe pas, elle.
Néanmoins, elle dit qu'elle est une éponge.
Oui, elle reçoit, effectivement, surtout jeune, elle reçoit tous les savoirs, elle les absorbe, c'est comme si elle les ingère pour se construire encore plus solide ensuite. J'ai un peu le même rapport avec l'écriture, par exemple, les nouvelles, les nouvelles, les rencontres, les gens, les accents, les événements, tout est absorbé, mais ensuite, par la plume, ça ressort sous une autre forme. C'est pas exactement... Je vais pas raconter les scènes exactes que j'ai vues. Je parle pas de l'actualité. On parlait d'un longtemps. Je parle pas de l'actualité spécifiquement. Et pourtant, l'actualité m'a traversée pour que j'en arrive à écrire ces textes-là. Daa se retrouve avec la nature dans cette espèce de même position d'absorption et de transformation.
Alors, cette petite fille qui naît déjà dans des circonstances très particulières, je le répète, un couvent, 24 nonnes, qui en fait sont des femmes qui ont décidé, après des vies violentées, de se réunir dans un espace un peu protégé. Elle vit dans la forêt, elle s'éduque toute seule. Il y a quelque chose, pour nous, lectrices et lecteurs, de l'ordre de la fable, du conte. Que vous permet ce genre littéraire, Audrey ? Wilhelmy.
En fait, je veux beaucoup explorer l'univers de la moralité, pas ce qui est moral ni immoral, mais vraiment amoral, et pour amener le lecteur à se poser des questions, à tester son propre registre de valeurs, ses propres émotions par rapport aux différents sujets que j'explore dans mes livres, quel que soit le livre. Et cet univers-là, qui est hors temps, hors lieu, permet beaucoup plus facilement d'avoir accès à l'imaginaire du lecteur sans les contraintes sociales, sans les contraintes légales que pourraient poser certains des textes. Donc, j'écris beaucoup plus librement avec ce que l'humanité a de plus brut et l'extraire d'un contexte social spécifique ou socio-historique spécifique, ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans cette exploration-là.
Lui, c'est donc Laure, on l'a dit, un garçon qui naît de parents très jeunes, qui ont été enrôlés dans une mine de charbon, avec des scènes extrêmement puissantes, violentes, dérangeantes. Et dans cet enfer noir, il naît, lui, tout blanc de peau, de cheveux, entièrement translucide. Pourquoi cette caractéristique en particulier, Audrey Wilhelmy ?
En fait, pour son pouvoir évocateur visuel dès le départ, on est dans la noirceur de la mine de charbon avec un personnage qui naît, qui est très blanc. Et ce qui, moi, m'intéressait, c'était l'impossibilité de se fondre. Et l'or, non seulement est très blanc, mais son père en prend grand soin. Donc, il est toujours propre, il est toujours lavé, il est toujours presque aseptisé dans cet environnement qui est sale, qui est noir, qui est... Donc, il y a cette espèce d'impossibilité de faire partie du monde dans lequel il évolue, qui vient avec le fait qu'il est albinos. Et c'était beaucoup cet enjeu-là spécifiquement qui m'intéressait, parce que lui voudrait tellement être comme tout le monde, même si ça signifie mourir très jeune dans la mine, même si ça signifie une vie excessivement difficile par rapport à celle qu'il vit. Il voudrait si fort faire partie du groupe et il n'y arrive pas.
Et en fait, j'ai l'impression que plus que la question de la marginalité en tant que telle, ce qui vous intéresse, c'est de questionner comment justement on vit avec, comment on s'adapte dans une société ou pas, en fonction de ses propres atouts.
En fonction de ses propres atouts, puis particulièrement avec ce projet-là, en fonction de sa propre histoire. Parce que ce qui m'intéressait aussi, en suivant les personnages de la naissance à leur âge adulte avancé, disons, c'était comment finalement les situations à la fin du roman vont avoir été teintées par toute l'histoire qui précède, et que finalement, dans des contextes où on pourrait décrier les actions de l'un ou de l'autre, il n'y en a pas un des deux qui a raison ou qui a tort, et chacun porte des décisions dictées par l'ensemble de leur parcours.
Ils sont différents, ils vont finir par se rencontrer dans une scène, et dans cet extrait que vous avez la gentillesse de nous lire, on vous écoute, Audrey Wilhelmy.
Donc c'est la voix de Daa. Je divise le monde en noir, brun, rouille. Noir les mineurs, brun les olbacs, rouille tous les autres qui de la tête ou du corps sont cuivrés et sales comme le clocher du couvent. Les couleurs franches des mammifères se salissent sur le cuir humain. J'en suis, je n'ai pas de pelage, juste du duvet d'oiseau naissant, de la mousse de roche. J'ai 5 ans et ma peau, des flancs jusqu'au front, des cuisses au tubercule, est une écorce fine, couverte sous les poils d'enfant, de houille, de taches et de cloques, cicatrices blanches d'anciennes piqûres, nouvelles croquées de brûlot. Je refuse qu'on taille ma tignasse épinée. J'y accueille les abeilles et les feuilles, les brindilles cassées, les chardons, les chenilles tombées sur mon chemin. Je suis brune, rouille et noire, fille de la forêt, de la mine, des 24 ventres de ma mère, de mon père tribu. La toute première fois que je découvre la blancheur, je l'entends avant de la voir. Son passage tapageur, ses pas qui froissent les fougères, alertent les oiseaux, écureuils et mulots. Je suis en train de jouer près d'une cascade. J'appelle mon amour la chute du filet aux truites et la grosse roche de l'éboulis. Je m'accouple au bouleau, je me frotte sur les écorces, je dis amic ononiusé, je promets au sapin des bébés sauvages, je m'éloigne et je reviens. Je me penche sur les branches et je chuchote, main en cône autour de mes lèvres et contre le tronc. Ils vont naître maintenant. Je sors de mes culottes des bouts de feuilles, des bourgeons. Je dis notre descendance, mon amour abasi, regarde pendant que je m'ébats nos enfants. Comme mes mères enfantaient de moi, j'accouche de ma taïga. La blancheur dérange la naissance de mes arbrisseaux. Je la flaire à 100 pas. Je n'ai jamais rien reniflé de semblable. Les parfums de son corps masqués sous une odeur qui n'est pas celle du bois, de l'alcool, de la pipe, de la terre, celle d'aucune fleur non plus. Je la traque tandis qu'elle fourrage un bosquet le long du sentier. Elle ne devine rien. Mes pieds savent depuis toujours ne pas faire craquer les brindilles. Et mon souffle se taire et mon cœur se détendre.
Merci beaucoup pour cette lecture.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet. Soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyée.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Audrey Wilhelmy à l'occasion de la parution en France de son roman Blanc Résine aux éditions Grasset. Un livre, on l'a entendu en début d'émission, qui s'inscrit dans une histoire d'amour où se rejoignent deux visions, deux approches de la vie différentes. L'une organique, mystique, charnelle, entièrement tournée vers la nature, et l'autre plus métallique, scientifique, cérébrale, dévouée à la misère humaine. Et en même temps, Da et Laure sont portés l'un à l'autre par le même élan, puisqu'elle, elle connaît tous les secrets des plantes et lui devient médecin. Donc d'une certaine façon, ils tentent chacun de guérir les autres, à moins que leur différence soit que l'une guérit les âmes et l'autre guérisse les corps. Qu'en pensez-vous, André Wilhelmy?
Je suis tout à fait d'accord avec cette division des rôles. Da se trouve à être celle qui, au-delà des codes médicaux, au-delà des contraintes, va aller plutôt soigner l'esprit, essayer de mettre en place une communauté, justement, même si elle ne veut pas y participer activement, elle a une facilité à mettre en lien les gens, à essayer de faire en sorte qu'ils soient solidaires les uns des autres. Laure est extrêmement bienveillant et accueillant dans son bureau de médecin. Il essaie de répondre aux mots de chacun, de s'assurer que, bon, l'hiver approche, il va avoir assez de médicaments pour tout le monde pendant l'hiver. Donc, il a un côté prévoyant que Da n'a pas du tout. Et à mon sens, ils sont très, très complémentaires. Ils ne sont pas en contradiction l'un et l'autre. C'est deux êtres très différents, mais qui sont tous les deux nécessaires à la bonne pratique du soin, en fait.
Et en même temps, dans cette union qui est magnifique, puisque c'est un peu la fusion des oppositions, et on se dit, voilà, l'univers qui se complète avec ces deux parties, il y a quelque chose qui, sans aller trop loin dans la révélation de l'histoire, arrive à une forme d'échec.
Mais ces deux espaces de conviction-là s'entrechoquent éventuellement avec l'arrivée d'enfants, parce que le désir de faire partie du groupe et le désir d'être libre finissent par... Bien que l'un et l'autre respectent profondément l'histoire et le parcours du partenaire, l'impulsion de ce qu'on veut pour ses enfants devient plus fort que le respect pour l'autre. Et à partir de là, sans ce respect-là, c'est voué à l'échec, parce que c'est deux personnages qui sont trop différents et trop entiers, en fait, pour réussir à calmer leur intensité respective.
Donc, il y a la question aussi de la transmission qui traverse votre roman.
Exactement. Donc, comment on transmet ses valeurs, ses convictions? Qu'est-ce que ça signifie de vouloir le mieux pour ses enfants quand le mieux ne signifie pas la même chose? Donc, il y a beaucoup ces réflexions-là qui portent le livre.
Et quand on est rattrapé, hélas, par la mort? Comme ça arrive aussi ici. Et de fait, ici, avec ces deux voix qui s'alternent, sauf les quelques passages qui les mettent en scène ensemble, vous écrivez, Audrey Wilhelmy, deux langues différentes. L'une très inventive, lyrique, entre chant et phonème, et l'autre plus classique, narrative. Est-ce que c'est aussi ce défi qui vous intéresse dans l'écriture, malaxer le langage, comme on met les mains dans la glaise pour faire de nouvelles poteries?
J'ai eu un immense plaisir à travailler la langue avec ce projet-là. Au départ, c'est la voix de Daa qui s'est imposée, celle qui était très lyrique et très poétique, en fait. Mais je me suis vite rendu compte que cette seule voix était trop intense et aussi trop abstraite, en fait, pour pouvoir porter à elle seule tout ce que je voulais raconter avec ce livre-là. Donc, pour trouver un contrepoids à cette voix très lyrique-là, j'ai été relire Zola, j'ai été relire des textes naturalistes, des textes vraiment très, très réalistes et très descriptifs pour trouver une voix qui ferait un contrepoids très fort à la voix de Daa et qui permettrait de mettre en lumière la distinction même des caractères des deux personnages.
Ça ne m'étonne pas que vous citiez Zola, parce qu'effectivement, toutes les scènes qui se déroulent dans la mine, on pense à Germinal. On y est vraiment là, mais avec le noir sur les mains, la sueur, la fatigue.
En fait, Germinal a été d'une grande aide pour moi, parce que comme justement je veux être dans un non-temps, les mots de la mine, c'est des mots très technologiques, donc ce n'est pas ces mots-là auxquels je voulais avoir accès. Donc, je suis retournée lire certains passages pour retrouver le lexique. Puis là, je prenais des notes sur, OK, ce mot-là, ça veut dire ça, c'est situé ici par rapport à tel autre. Donc, ce lexique de la mine vient de Germinal, en fait.
Vous dites relire Zola parce que ça faisait déjà partie des auteurs que vous aimiez.
Je les ai lus, ça fait quand même 15-20 ans maintenant, mais j'avais été très fascinée. C'est des scènes très évocatrices d'un point de vue sensoriel et particulièrement visuel chez Zola. Donc, c'est plus que je me souvenais fortement de certaines images et je me suis dit, c'est de ces images-là dont j'ai besoin pour remettre en place ce que je veux construire.
Pour rester sur la question de la langue, j'ai l'impression aussi, Audrey Wilhelmy, que vous aimez détourner les stéréotypes, par exemple donner des prénoms dits masculins comme Noé pour une femme, ce qui est le cas d'un de vos personnages passés et à venir, et des prénoms dits féminins comme Laure, ici pour un homme. Est-ce que c'est pour questionner la notion d'identité qui nous est imposée par la société, mais dont nous pouvons nous affranchir si nous le décidons?
En fait, c'est moins un enjeu identitaire, bien que je comprenne très bien cette question-là et que je sois très solidaire de ces causes-là. Dans mon cas, c'est vraiment plutôt une question de construction d'un univers qui est justement, encore une fois, pas situable vraiment temporellement ou géographiquement. Donc, si je donnais des noms systématiquement très genrés ou très communs à mes personnages, ben nécessairement, des noms très communs chez moi ne seront pas nécessairement communs ici. Ça va dater autrement. Donc, j'essaie que ce soit très... Il y a toutes sortes d'origines aux noms que je donne. C'est toute une construction sonore, finalement, le travail de nomastique dans mes romans. Et c'est plus dans la perspective de créer un univers atemporel, agéographique, que je joue avec les genres aussi, des noms.
Alors, puisqu'on parle du genre, on pourrait dire que ce roman Blanc Résine est un roman féministe. Est-ce que c'est ce que vous revendiquez, Audrey Wilhelmy? Et dans quel sens ce serait un roman féministe?
Mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que je ne suis pas une très grande militante dans la vie. Je n'ai pas une nature revendicatrice très forte. Mais en étant à Saint-Malo et en parlant aux jeunes lectrices du prix Ouest-France, on a beaucoup parlé de féminisme et elles m'ont aidée, en fait, à mettre en mots de quel type de féministe il s'agit. Et c'était extraordinaire parce que c'était quand même essentiellement des jeunes femmes qui étaient là. Donc, cette conversation-là avec des filles plus jeunes qui cherchaient des réponses et qui trouvaient des réponses dans le livre par rapport à comment être femme et être libre et être entière, m'ont fait réaliser qu'il y a une forme de féminisme assurément dans ce livre-là.
Vous voulez dire, excusez-moi, je vous interromps parce que ça me frappe beaucoup ce que vous êtes en train de nous raconter, que c'est les jeunes lectrices en France qui vous ont fait comprendre la part féministe de ce roman et ça n'avait pas été le cas avec vos rencontres au Québec, au Canada, avec votre public féminin?
Ben oui, mais qui m'est aidée à le... En s'adressant à des plus jeunes, je voulais vraiment trouver ce que je voulais leur transmettre à travers ça. Puis les conversations ont vraiment permis Tu sais, aussi, Saint-Malo, c'est une bulle où on fait 6-7 rencontres, où on échange très régulièrement sur le titre. Donc, au fur et à mesure qu'on en parle, la pensée se précise. Puis, j'ai pas souvent l'occasion de faire 7 rencontres de suite en 3 jours. Et donc, ce qui se dégage de ça, c'est qu'en fait, c'est un texte féministe qui veut penser l'après-revendication. Donc, quelle figure on peut se construire comme femme forte, comme femme libre, qui n'est pas victime, qui n'est pas non plus dans la colère, qui n'est pas dans l'amertume, qui n'est pas dans... Donc, toutes ces choses-là sont importantes et sont nécessaires avant d'arriver à la situation de Da, par exemple. Mais c'est comme une nouvelle mythologie et de nouvelles forces à nous donner à nous-mêmes que je veux construire. Je veux pas... J'ai pas le caractère d'aller dans la revendication et la colère, c'est trop d'énergie que je suis pas capable de donner. Mais de proposer quelque chose au-delà, donc après, de positif, de... Da, elle porte en elle sa force. Elle vient pas des autres, elle vient pas de la colère, elle vient pas de violence qu'elle a subie. Elle la porte pleinement, totalement, entièrement. Et ça, je pense que c'est un féminisme qui peut venir compléter le féminisme plus militant qu'on retrouve en ce moment.
Puisqu'on parle de thématique, c'est aussi un livre qui d'ailleurs a été écrit avant le confinement et qui fait écho, voire qui annonce cette pandémie que nous avons traversée et qui remet en question notre rapport au monde et à l'écosystème. D'ailleurs, vous aussi, je crois, vous avez changé de vie, Audrey Wilhelmy.
J'ai complètement changé d'écosystème en entier, en fait. J'habitais en ville et probablement avec une intuition que je ne comprends toujours pas. Un mois avant la pandémie, j'ai acheté une maison en campagne, une très vieille maison, très vieille maison pour le Québec. Ici, elle est toute jeune, mais de 225 ans, qui est très isolée. J'y ai construit des presses artisanales. J'ai ouvert des grands jardins. J'ai planté un verger. Donc, ma vie, j'habitais au centre-ville de Montréal et je me suis beaucoup éloignée. J'ai retrouvé, en fait, un environnement qui est beaucoup plus proche de celui de Blanc-Résine, mais après l'avoir écrit. Et ça a été extraordinaire pour toute ma démarche artistique, en fait, sur tous les plans.
Mais j'ai envie de dire, c'est la continuité de votre démarche artistique, de vous implanter dans cet espace qui correspond à l'univers romanesque et artistique que vous développez depuis plusieurs années.
C'est exactement comme si cette maison-là m'attendait, mais presque comme si je me l'étais écrite pour moi. Ça a été une expérience, ça a été un choc de visiter ce lieu-là et de me sentir comme si ça faisait des années que je le préparais pour moi alors que j'y habitais pas.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie, alors, qui s'est dessiné aussi.
Tout à fait. Je sais que ça a été très dur, les années de pandémie, mais pour moi, ça a été des années où j'ai mis en place beaucoup, beaucoup de choses pour l'avenir.
Et j'ai l'impression, en effet, que votre œuvre est un peu aussi comme un arbre, très enraciné dans le sol, avec des ramifications d'un livre à l'autre, et également tourné vers le ciel, pas forcément le soleil, d'ailleurs, mais vers le vent qui nous ébouriffe, qui nous secoue, qui nous aère.
Si vous saviez le vent qui bat les champs autour de chez moi, j'ai retrouvé ce vent-là. Mais oui, je pense que ce souffle-là, j'espère réussir à le transporter, à continuer de l'amener aux autres. Et je crois que mes prochaines œuvres aussi sont portées par ce même souffle.
Ce souffle, ce mot que j'utilisais pour commencer l'émission. Voilà donc la boucle qui est bouclée. Merci beaucoup, Audrey Wilhelmy, d'être venue au micro de RFI dans Littérature sans frontières, nous parler de ce roman qui paraît en France aux éditions Grasset sous le titre Blanc-Résine.
Merci de m'avoir reçue.
Avec grand plaisir.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.